première.
Oui.
Oui.
22h, 23h. Par oui dire.
Pascal Tison.
Dis-moi. Par oui dire.
On sait qu'il y a des tumulus qui ont été fouillés, pillés. On a des vieilles gravures du 16e, du 17e. On voit les gens qui ouvrent, qui éventrent des tumuli, des tumulus en français, qui sont vidés de leur contenu. La chasse aux beaux objets, les antiquaires, enfin, l'histoire classique, on va dire, de cette évolution à travers la Renaissance. Et puis au 18e, 19e, on a des pionniers qui commencent à accorder de l'attention à l'accumulation de la stratigraphie. Ça, ce sont les géologues et les sciences naturelles qui amènent ça. Et puis finalement, le tumulus nous permet d'illustrer cela, parce qu'en fait, c'est une structure hors sol, dont on peut tirer des coupes spectaculaires. Et c'est la raison pour laquelle, avec le musée de St. Louis, là, on a pu avoir des reproductions d'un panorama qui fait un peu moins de 150 mètres de long. C'est un gars qui a fouillé des milliers de tertres amérindiens le long de l'Ohio et le long du Mississippi, qui a amené des milliers d'objets, qui a créé un musée privé à l'époque. Alors, quand je parle de l'époque, c'est fin 19e, début 20e. Et cette toile, ce sont des toiles de 2 mètres de haut, c'était un spectacle vivant. On roulait cette toile, on remontait le cours. L'après-midi, on l'a réenroulé, on descendait le cours. Il y avait des effets de fumée. Enfin, on imagine Lucky Luke avec le chariot. C'était un spectacle itinérant. On racontait l'exploration de ces tertres. Et en même temps, c'était un document qui a des notes, il y a des relevés. C'est un document d'anthropologie, d'ethnologie. C'est un document d'archéologie. Et c'est du spectacle, c'est du business, le gars. Il faisait du... Vous êtes pognon avec ça, en fait. Donc c'est vraiment intéressant. Et en même temps, ce qu'on voit, cette image, sur cette toile, un tertre, avec toutes les strates.
Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58 ?
Absolument.
Cette place de Belgique.
Les Kaliski.
Mon œuvre.
Allez, au cinquième.
Une garden party très contemporaine.
Merci d'être là.
Aschenbach, Lino Polegato.
Dans mon histoire de ma peinture,
authentique me tente comme tente ton tombstelle.
Le monde invisible.
Archéologie de voyage. Au musée universitaire de Louvain. Au musée royal d'art et d'histoire au cinquantenaire.
Ils viennent des steppes d'Asie centrale. C'est finalement une confédération de peuples cavaliers, nomades, qui ont commencé à pousser les Goths, qui finalement sont rentrés en empire romain. L'empire unique, si on peut le dire, prend fin finalement avec la mort d'Attila au 5e siècle. Et alors après, on ne parlera plus des Huns. Quelques temps après, ça va être le peuple avare qui va finalement arriver aussi subitement que les Huns étaient arrivés. Et ils vont prendre la province romaine, la Pannonie, en Hongrie actuelle, et ils vont s'installer là.
Brite glace.
Les Huns, c'était aussi des cavaliers. Maintenant, ici, dans l'exposition, l'énorme chance de pouvoir... présenter quelques pièces avares. Les avares ont beaucoup de contacts avec des contacts guerriers aussi avec l'Empire byzantin. Et finalement, l'Empire byzantin va faire des paiements annuels en or pour avoir la paix. Et les avares, alors, vont fondre cet or, vont réutiliser l'or et en créer des pièces d'orfèvrerie tout à fait magnifiques, où on voit aussi beaucoup de styles différents qui se sont intégrés dans ces bijoux. Donc voilà, ici, nous nous retrouvons devant une fibule discoïde en or et décorée en miel. Et comme vous voyez, les détails sont tout à fait extraordinaires. Il y a une petite animation à côté de la fibule qui va montrer plus en détail tout ce qui est reproduit sur la fibule, parce que on est confronté ici en fait avec ce qu'on appelle pour cette période au Moyen-Âge le style animalier.
Au musée universitaire de Louvain, au musée royal d'art et d'histoire au cinquantenaire.
Et on peut raccrocher ça au développement de l'archéologie scientifique qui va se développer dans la première moitié du XXe siècle et puis ensuite se développer encore plus grâce notamment aux techniques électromagnétiques, électriques, pour la prospection non destructive. Et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. un des exemples de tertre présentés sur notre table numérique, où on présente l'universalité du phénomène et l'intemporalité quasiment du phénomène. On a été en contact avec des archéologues américains et australiens qui ont demandé l'autorisation des correspondants sur place, correspondants des familles indigènes, notamment les aïeux de ces familles, qui, dans le Queensland, accordent encore beaucoup d'importance aux tertres qui parsèment leur territoire, du territoire de leur communauté indigène, et qui, ne sachant pas si c'est funéraire ou non funéraire, on les attribue à des grands oiseaux qui auraient fait leur nid. Ces histoires existent en Calédonie, en Australie. En réalité, on utilise des techniques non destructives pour explorer et s'enfouiller, in fine, constater si oui ou non on y retrouve des restes d'inhumation, le cas échéant. Et c'est le cas. Ces tertres, sans les fouiller, on peut attester qu'on a des sépultures au sol, de plein pied, qui ensuite ont été recouvertes d'un petit tertre, et ce tertre lui-même est recreusé pour accueillir de nouvelles sépultures. On le sait grâce aux techniques de prospection radar dans ce cas-là. Donc ce sont des techniques nouvelles, et effectivement l'archéologie a énormément évolué de ce point de vue. Quelque chose qui n'est pas neuf mais qui est intéressant, ce sont les techniques de prospection dites aériennes, que ce soit des vues satellitaires, que ce soit des vues en vraie fausse couleur, infrarouge, ou à basse altitude par avion, hélicoptère, avec des techniques de prospection utilisant les lasers, ce qu'on appelle le LIDAR. On capte les moindres micro-reliefs, on voit les traces dans les champs grâce à l'évolution des cultures qui sont contrastées selon les conditions hygrométriques, de température, selon les saisons. Et on voit des cercles apparaître, on voit des traces qui sont interprétées, qui nous font penser en Flandre et au sud des Pays-Bas, par exemple, grâce aux travaux de l'université de Gand, que, à l'âge du bronze, dans nos régions, on avait un paysage à tumulus. Il y en a des milliers. Aujourd'hui, on ne les voit plus, ils ont été arasés pour les cultures. Les prospections permettent de nous les révéler. On peut retourner les fouiller, vérifier leur chronologie. Sont-ils de l'âge du bronze, du néolithique, etc.
Archéologie de voyage. Au musée universitaire de Louvain, au musée royal d'art et d'histoire au cinquantenaire.
On dit parfois qu'après la fin de l'Antiquité, il n'y a plus rien. Ça, pas du tout vrai, bien évidemment. Et en plus, on ne va pas finir avec l'héritage antique brusquement, non. Au contraire, on va adopter le latin en tant que langue administrative, culturelle et dans les manuscrits. On va aussi adopter l'administration, la fiscalité romaine, et ce qui aidera finalement aussi à unifier tous ces différents peuples, même si eux gardaient oralement leur langue. Le latin va vraiment à aider à unifier. Et on va aussi copier beaucoup de manuscrits antiques. Même si on copie déjà pendant la période mérovingienne, c'est surtout à la période carolingienne on va mettre en vigueur une nouvelle écriture aussi, des nouvelles lettres qui s'appellent la minuscule Caroline, et qui va aider à la lisibilité des textes, et qui est d'ailleurs aussi à la base de notre écriture actuelle. Mais si aujourd'hui on a beaucoup de connaissances de manuscrits romains, c'est aussi parce que à la période carolingienne, il y a eu beaucoup de copyistes qui ont travaillé dans les abbayes, dans les scriptoria des abbayes, et on a une énorme chance de pouvoir exposer quelques manuscrits tout à fait exceptionnels de la Bibliothèque royale, où on voit aussi cette minuscule Caroline en vigueur.
On y va voir ?
Oui.
On peut aller...
Au musée universitaire de Louvain, au musée royal d'art et d'histoire au cinquantenaire. Archéologie de voyage.
Voilà, je vous souhaite la bienvenue donc dans l'exposition Tumulus, montagne d'éternité. Alors je vous présente Laurent Versic, qui est professeur à l'UC Louvain, qui est également le directeur du CRAN, qui est le centre
de recherche d'archéologie nationale.
Voilà, donc c'est un institut de recherche, et il travaille vraiment avec des matériaux, donc certains sont présentés ici.
Au musée universitaire de Louvain, visite de l'exposition Tumulus, montagne d'éternité, jusqu'au 19 janvier.
Un tumulus, c'est au sens strict du terme un amoncellement d'une matière, le plus souvent un sédiment. Donc c'est-à-dire que cette forme, on ne la décrète pas. Elle se construit presque naturellement par le fait de son érosion perpétuelle, de sa reconstruction perpétuelle. C'est un empilement de matière. Alors quand c'est un sédiment, ça peut être du sable, ça peut être de la terre le plus souvent, quelle que soit sa nature. Ça peut être de la pierre, par exemple, ça peut être du corail fossile. On peut structurer un tumulus.
Isabelle Marron.
Avec Anne Kéringent, Isabelle Marron, Laurent Verslip, Emmanuel Druard. Archéologie de voyage. Au Musée Royal d'Art et d'Histoire, cinquantenaire. Exposition Crossroads, avec Brit Glass.
Malheureusement, non. Mais j'ai eu l'occasion de fouiller un cimetière rattaché à une abbaye. J'avais fait ça en France. Donc les squelettes, j'ai déjà fouillé et c'est passionnant.
Les mouvements de population à travers le Moyen-Âge européen jusqu'au 29 mars.
Le but de l'exposition a effectivement été de privilégier la fonction funéraire du tumulus. Alors le tumulus en général, au sens des définitions qu'on lui accorde dans le vocabulaire spécialisé, technique, où que l'on soit, le tumulus désigne en général une sépulture, c'est-à-dire une sépulture monumentale qui a la forme d'un tertre, d'un monticule, dont les plus grands font 40 mètres de haut pour le néolithique, dès le néolithique, en Grande-Bretagne. Ce principe tout à fait élémentaire de construction, c'est un amoncellement. Mais il faut en être maître, comme j'ai dit, un tertre comme ça, ça s'érode forcément. Et donc on va créer des tambours, on va poser des orthostates, on va structurer des chambres et des couloirs. Les fonctions qui accompagnent ces modalités de construction sont très intéressantes à prendre en compte, parce qu'en réalité, il faut quelqu'un qui décrète ou un ensemble communautaire qui décrète cette construction. Et cette tombe peut être communautaire, peut être individuelle. Elle peut célébrer le prestige d'un individu et sa réussite sociale et économique. Mais elle peut aussi borner un territoire, marquer la propriété. Alors je dis la propriété, en réalité, la sédentarité d'une communauté à un moment donné clé de l'histoire. Je pense notamment au tournant du néolithique et de l'âge du bronze. Et donc, on a toute une série de motivations, mais qui aboutissent à travers le monde à des formes similaires. Et pour cause, le tumulus, on vient de le dire, sa définition, c'est un amoncellement.
Laurent Verslip
me parle d'universalité.
J'ai moi-même découvert avec l'exposition que ce type de tombe, comme ça, se retrouve sur tous les continents, parfois avec des petites différences, des approches et des croyances différentes, mais globalement, c'est toujours dans l'idée d'être une sépulture individuelle ou collective. Oui, c'est assez surprenant.
Archéologie, deux voyages, par Thierry Genicot. Le monde invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.
Les communautés gardent connaissance de là où étaient enterrés leurs ancêtres. Et un petit peu comme nous, aujourd'hui, quand on passe dans nos cimetières, on voit les pierres tombales, on voit les noms, et on a une pensée pour telle ou telle personne. Mais eux avaient ces tertres, ces petites collines, ça marquait le paysage et ça leur permettait de repenser à leurs ancêtres. Oui, tout à fait, comme mémoire. Ouais.
Pour nous, le Muséel, ça a été vraiment l'occasion de créer trois grandes, belles synergies. Donc la première, c'est qu'on a développé des liens rapprochés avec l'université. Donc on s'est appuyé sur la solidité scientifique d'un centre de recherche donc, qui est dirigé par Laurent. Et ça nous donne en fait une assise, un propos scientifique tout à fait intéressant. Le défi, c'est que l'archéologie est quelque chose de difficilement communicable au public.
À l'époque mérovingienne, on s'est rendu compte qu'on va continuer d'une certaine manière à ériger des tertres funéraires, souvent de moindre importance. Alors, la période mérovingienne, c'est quand même plus de 3 siècles. Il faut remonter au 5e siècle pour voir que certaines grandes tombes princières permettent d'établir un lien vraiment à travers l'Europe au niveau des coutumes. Je pense au roi Childéric qui est inhumé sur la rive droite de l'Escaut à Tournai en 481-82. Et qui adopte en réalité une coutume, c'est-à-dire la constitution d'un grand tertre. Le sacrifice d'un grand nombre de chevaux, de l'écurie royale, présume-t-on. Et de fait, on a là une coutume qu'on retrouve plus à l'est, en Thuringe, chez les Bavarois aussi, mais qu'on tient en ligne directe des grandes élites princières à travers toute l'Europe, à commencer par les peuples nomades, les Huns, et puis d'autres grands tenants du pouvoir en Roumanie et jusqu'à Tournai, qui est l'exemple le plus occidental de cette période. Donc, en fait, on a plusieurs phénomènes au Ve siècle. C'est vraiment cette élite à l'échelle européenne qui continue d'adopter des rites qui ont été propagés, en fait, par les grands peuples des steppes d'Asie et puis par la mer Noire en arrivant jusque chez nous. Une identité germanique, en somme. Les aristocrates qui vont ensuite prendre le pas en Europe au VIe et au VIIe siècle vont de temps en temps aussi se démarquer des nécropoles communautaires en adoptant des formes monumentales un peu originales. Certaines vont ériger des rangs de pieux autour de leurs tombes, d'autres vont établir des fossés circulaires. Et on présume, à l'analyse, que certains sont recouverts de tertres. Alors, ce sont des petits tertres. Ça fait parfois 3 à 4 mètres de diamètre, c'est pas très haut sans doute. On sait qu'il y a des modes de gazon comme Tacite les décrivait déjà chez les Germains quelques siècles plus tôt. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a des tertres qui recouvrent presque systématiquement, et ce sont les mobiliers qui sont exposés ici, datent exclusivement de la moitié du 7e siècle. C'est-à-dire la fin de l'inhumation habillée où on peut encore reconnaître à son mobilier la chronologie d'une sépulture de cette période. À la fin de la période mérovingienne, avec mobilier, donc 7e siècle, nous avons des tertres qui, en Ardennes, en province de Namur, qui en Famène, et qui jusqu'en Flandre, témoignent de ce phénomène. Les mobiliers sont stéréotypés. C'est ce que j'ai voulu montrer, en fait. On a presque toujours les mêmes assemblages de ceintures décorées en argent, toujours les mêmes signes du pouvoir, le grand Cramasax, comme on l'appelle, terme un peu curieux, mais qui est en fait une espèce de grand glaive. Et donc, on a, à l'époque mérovingienne, un vocabulaire qui se développe chez les Alamans, chez les Francs occidentaux, chez les Francs rhénans. Ça se voit, effectivement. Ces tertres-là sont vraiment l'insigne d'une démarcation de quelques personnes qui tiennent un rang particulier dans la communauté.
Et donc, de ne pas du tout être un musée universitaire réservé à ces publics traditionnels, dans le cas d'un musée universitaire, les étudiants et les chercheurs. Donc là, on a vraiment joué à la fois sur toutes les compétences et toute, je dirais, la solidité scientifique que des chercheurs peuvent nous apporter. Et ce qu'on a fait, c'est les rendre accessibles à tous les publics. Donc on a pleinement joué notre rôle de musée universitaire et public, puisque, comme vous le savez, nous sommes reconnus par la communauté française.
Cette forme d'universalité, alors il n'y a pas des tumulus funéraires partout, néanmoins, on en a débusqué en Nouvelle-Calédonie, en Australie, c'est-à-dire en Océanie, au sens général, même s'il n'y en a pas partout en Océanie. On en trouve en Corée, en Chine, au Japon, on en trouve en Sibérie, on en trouve en Europe centrale, et je peux continuer les exemples depuis l'Afrique subsaharienne, en passant par l'Afrique de l'Est jusqu'à l'Afrique du Nord, au Sénégal si on va de l'autre côté du continent, et si on franchit l'Atlantique, on en retrouve au Brésil, en Colombie, et on peut monter jusqu'au Canada.
On a également veillé à multiplier les canaux d'accès au contenu. Donc il y a également des canaux, vous avez entendu, auditifs.
Donc, indépendamment des périodes dont on parle, on a adopté cette forme élémentaire. Alors, on peut la structurer. Ça veut dire que cette forme monumentale peut être ceinte de tambours de pierre, de pieux de bois. On peut lui donner des formes de façade, de terrasse. Et à l'intérieur, évidemment, selon la motivation que j'évoquais il y a un instant, on va retrouver des couloirs, une ou plusieurs chambres, mais parfois on va retrouver plusieurs couloirs, plusieurs chambres. Et parfois on va trouver à la fouille des tumulus qu'on a agrandis, étendus, soit en hauteur, soit en diamètre, soit en longueur. Ce qui fait qu'on va démultiplier les chambres, et il y a un phénomène tout à fait important aussi qu'il convient de rappeler. On a tous en tête les tables d'Holmen. Ces tables d'Holmen, ce sont des caveaux.
Archéologie de voyage. Au musée universitaire de Louvain.
En fait, le tumulus qui les recouvrait, parce qu'on sait que ces tables d'Holmen, elles étaient recouvertes d'un tumulus, souvent on rappelle que, attention, rappelez-vous, il y avait un tumulus là au-dessus. Mais en réalité, il faut se souvenir aussi que dans ces dolmens, on avait des sépultures collectives, utilisées au gré de nombreuses générations, qu'en réalité, les tumulus étaient une forme de condamnation, de fermeture et de clôture de l'usage de cette sépulture. Donc le tumulus ne participe pas de l'utilisation d'une sépulture dans ce cas-là, mais participe de sa fermeture. Donc, on retrouve la même forme, une fois encore, mais avec des motivations, des objectifs très différents, toujours associés aux funérailles.
De la vidéo, on a des cartes géographiques sur lesquelles on peut comprendre que cette thématique est une thématique transversale, universelle, ce qui réagit aussi très très bien sur, je dirais, l'ADN de notre musée, elle. Nous sommes un musée qui créons des liens entre les cultures, entre les civilisations et qui décloisonnons le regard. Donc on n'est pas segmenté. Donc cette thématique, elle est tout à fait adéquate à ce niveau-là. Elle, je dirais, renforce en fait l'identité de dialogue qui est présente dans les collections permanentes du musée.
Certains de ces monuments sont peut-être non datés ou mal datés parce que le mobilier disparaît, qu'on n'a pas d'autre moyen d'établir une chronologie par exemple. Et qu'au 8e siècle, il est très compliqué d'attribuer une sépulture à, on va dire très précisément, sauf si on a des moyens comme le carbone 14 ou d'autres possibilités de datation ou de relation à un autre élément de structure. Par exemple, une église. Ce sont les premières églises, les premières inhumations des élites qui adoptent le christianisme en premier lieu, avant que les campagnes ne soient christianisées totalement. Et de fait, le vocabulaire symbolique, rituel, change complètement, les marques du pouvoir évoluent. On est plus en difficulté de relier d'éventuels tertres de ce type à ces périodes. Alors, on sait par ailleurs, en Scandinavie, que d'une génération à l'autre, on est un peu plus tard, on est au 9e, 10e siècle, on sait par exemple qu'un des fondateurs de la nation danoise, le roi Gorm, va se faire inhumer dans un grand tertre qui n'est autre que l'agrandissement d'un tertre de l'âge du bronze qui précédait, et que son fils qui lui succède, un peu bousculé par ceux qui contestaient cette filiation dynastique lors de la création du royaume du Danemark, un peu bousculé donc par ses opposants, va faire une translation, va en fait reprendre la dépouille de son père, va faire construire une église à côté du grand tertre et va y transférer la relique de son père pour le christianiser a posteriori. Toute une série de pierres runiques, évidemment, dans ce contexte culturel spécifique, vont être érigées et on célèbre effectivement la puissance de ce nouveau roi qui christianise et fonde le Danemark en quelque sorte comme royaume en héritage de ce qu'il a tenu de son père. Et donc, voilà, donc on a des choses qui au Moyen-Âge se produisent, continuent à se produire et qui se prolongent un peu plus longtemps, effectivement, dans le nord de l'Europe. Pour toute la Scandinavie, les Vikings en général.
Anne Thiringeant évoque des objets.
Donc il y a un certain nombre de vitrines qui permettent de voir alors les objets qui étaient déposés dans les sépultures et qui accompagnaient les défunts.
Isabelle Marron.
Ces objets montrent en fait qu'est-ce qui était important à quelle époque, puisqu'on démarre du néolithique et on va jusqu'à l'époque mérovingienne et on voit comment, d'une époque à une autre, d'une culture à une autre, certains objets sont plus importants, se retrouvent plus souvent que d'autres. Généralement, c'est souvent de la vaisselle, service de table, service de toilette. Puis quand on est dans des tombes plus riches, alors il y a aussi des bijoux, des objets d'apparat. Et si on est en présence d'un militaire, on a effectivement des armes alors qui accompagnent le défunt.
Bien sûr, il faut des objets. Sinon, on n'a pas besoin de venir dans un musée. Donc, on ne reste pas à un niveau d'image et de texte, ou de vidéo, ou de iPad. Donc, on va vers les objets. Et là, on a une sélection tout à fait magnifique. On a des objets fabuleux. Certains n'ont jamais été rassemblés comme tels. Et on a pu avoir accès à des prêts de musées prestigieux, donc le Musée Royal d'Art et d'Histoire, le Musée d'Archéologie d'Arlon, de Namur, l'Agence Wallonne de l'Archéologie et du Patrimoine, et bien sûr des objets qui viennent également du CRAN.
Ces objets sont là pour accompagner le défunt et qu'il ait le nécessaire dans sa vie de l'au-delà. Tout à fait. Oui, oui.
Alors, autour d'une exposition, il y a le parcours. Et ça, Monsieur Verslip, Laurent Verslip, vous permettra de rentrer dans les objets, dans le propos. Un propos, comme je vous le disais, transversal, universel, intemporel.
En réalité, l'Église n'a pas condamné l'inhumation habillée et le dépôt des objets qui accompagnent le défunt. C'est peut-être, d'une certaine manière, oui, la condamnation du sens qu'on prête à ces objets quand il s'agit de célébrer un banquet funéraire, d'entretenir la vie dans l'au-delà. En tout cas, il y a des éléments qui se rejoignent à travers les cultures, à travers les périodes. L'archéoastronomie qui aborde d'une manière très originale les grands tertres du premier âge du fer avec la grande importance des lunistices d'une part, cette attention aux phénomènes cosmiques cycliques, toujours les cycles ont une grande importance, et au soleil, au solstice, montre ce souci en fait de la renaissance dans une autre vie sous une autre forme dans les cultures celtiques. Pour le christianisme, ça prend une autre signification, tout simplement. On a une évolution, mais la réappropriation du tumulus dans certaines régions va effectivement vouloir bannir cette relation à des formes de paganisme en érigeant chapelles au sommet des dits tumulus ou en procédant de telles translations vers une église. Alors, ce sont des phénomènes qui se produisent, qui ne sont pas généralisés, c'est certain, mais on a d'autres phénomènes liés au christianisme qui sont très amusants. C'est Saint Arnoul qui, dans les Ardennes actuelles, en Meuse française, est inhumé sous un tertre par opportunité. Lors de son passage, il décède et on l'y enterre. Et puis, quand on va vouloir le déplacer vers une église, son corps, en quelque sorte, va faire de la résistance. La géographie, le récit légendaire de la vie de Saint Arnoul montre que impossible de déplacer ce corps jusqu'à ce qu'un chevalier vertueux arrive, le décrète et finalement arrive, lui, à transporter le corps du saint vers l'église qu'il avait construite à cet effet. Donc, autour de ce paganisme, de ce christianisme, il y a vraiment des récits qui s'enchevêtrent et qui sont pas du tout univoques. Et ça rend assez intéressant, cet objet tumulus au cœur de l'ensemble de ces récits.
Il y a cette croyance d'une vie après la mort. Pour que le défunt ait une bonne vie ou une vie similaire à celle qu'il avait sur la terre, eh bien, on l'accompagne de ces objets du quotidien, et même plus parce que dans les grandes tombes, alors par exemple comme la tombe de Childéric, il y avait tous ces objets en or et tout ça, et alors il y a eu ces fosses autour de la tombe où des animaux ont été sacrifiés pour qu'il ait aussi en fait encore son cheptel de chevaux avec lui.
Laurent Verslip.
Ces textes montrent des descriptions par des historiens chinois qui, en réalité, dès le VIe siècle avant notre ère, relatent comment de grands empereurs se font enterrer sous des tertres gigantesques avec la domesticité qui est sacrifiée, qui est enfermée dans le tumulus à sa clôture. Et je confronte ça à Hérodote, qui évoque des funérailles chez les Scythes, en Europe centrale, sont bien connus, et la description de cet historien grec qui jette un regard sur le barbare, en fait, nous rappelle qu'on inhume avec une certaine barbarie, on exécute des chevaux, on les empale, on sacrifie les domestiques, et on part les élites de leurs plus beaux atours. Et puis en face, je mets un texte d'un voyageur arabe qui, au Xe siècle, raconte exactement la même chose chez les Russes. Ce peuple né, en fait, entre mer Baltique et mer Noire, des contacts entre les Scandinaves et les Slaves, qui, au Xe, XIe siècle, raconte son voyage et raconte stupéfait une scène de funérailles qu'on aurait pu croire quasiment racontée par Hérodote quelques siècles plus tôt. Donc cette forme d'approche diachronique montre que, quelle que soit la culture, quelle que soit l'importance des souverains, des élites et leur forme d'organisation étatique, s'il en est, mais en tout cas politique ou sociale, à travers tous les continents, à travers toutes les périodes, on a des vocabulaires qui apparaissent, disparaissent, réapparaissent. Et en cela, le choix des mobiliers que nous avons fait, il y a des vitrines, c'est une exposition d'archéologie, on a des objets naturellement. Ces objets, on ne les a pas choisis parmi les plus beaux contextes en Europe. On aurait pu faire une salle au trésor. J'ai délibérément choisi de prendre des objets qui sont de notre pays et qui peuvent montrer la place de notre patrimoine dans ce grand concert de démonstration des pratiques sociales, des pratiques funéraires en particulier, voire même des pratiques politiques. Certains de ces grands tertres sont des démonstrations politiques, je pense au Kofun japonais. Et ces vitrines, donc, elles sont représentatives de chacune des grandes périodes de l'histoire européenne, du Nord-Ouest européen. C'est pour ça que la chronologie, elle est présentée dans l'exposition en se concentrant sur l'Europe, notre pays, avec à chaque fois des contextes qui nous ont été prêtés, et parfois certains qui sortent de manière tout à fait exceptionnelle, notamment des musées royaux d'art et d'histoire, de l'Agence Wallonne du patrimoine, du musée archéologique de Namur. Et on a une réunion de contextes gallo-romains, notamment, qui est exceptionnelle côte à côte. C'est tout à fait... C'est la première fois qu'on voit ça. Et c'est très intéressant de pouvoir voir ce qui, dans nos régions, est représentatif de ces tertres, de leur dotation au premier âge du fer, à la fin du néolithique, au premier âge du fer, au deuxième âge du fer, à la période romaine et jusqu'à la période mérovingienne au Moyen-Âge. Et in fine, ça nous relie à la prise de conscience que l'on doit avoir, notamment quand on sait que tous les tumuli ou les tumulus de la région wallonne, par exemple, ont fait l'objet d'un classement, sont reconnus comme patrimoine wallon majeur, échelonné le long des voies romaines qui nous guidaient de Boulogne durant l'Antiquité en passant par Pavé et Tongres et nous rendant à Cologne.
Archéologie de voyage. Au musée universitaire de Louvain, visite de l'exposition Tumulus, montagne d'éternité, jusqu'au 19 janvier.
Au plus, la culture chrétienne imprégnait la société. Celle-ci a imposé que les inhumations se fassent alors autour des lieux de culte, autour des églises. Et donc c'est comme ça que les tumuli n'ont plus été la forme d'inhumation des gens de l'époque à ce moment-là.
Ces propriétaires fonciers qui étaient en SB fertile, le SIC, ont laissé leurs traces dans le paysage actuel. C'est un patrimoine. Pourtant, ce sont des tombeaux qui ont été fouillés au 19e. Archéologiquement, ils sont vides de sens, si j'ose dire. Mais il n'en reste pas moins que cette trace paysagère participe de ce qu'on peut qualifier d'un paysage historique.
Les objets remarquables qu'on peut voir dans cette exposition, prenons l'objet le plus intéressant, c'est lequel à vos yeux ?
Eh bien, celui qui me vient à l'esprit, c'est un tout petit objet. C'est pas l'original, c'est une reproduction. Une petite pièce comme ça, très fine, de forme géométrique, en or normalement, et sur lequel est reproduit le nom du défunt, et qui date alors de l'époque romaine. Donc, il y a une tombe où on sait identifier qui est le défunt inhumé à cet endroit. Parce que généralement, on ne le sait pas.
Vous évoquiez le tumulus comme monument funéraire. Mais dans le Brabant wallon, il y en a un énorme qui se situe à Waterloo, qui s'appelle le Lion. Et c'est un tumulus.
D'entrée de jeu, j'ai dit le tumulus, dans une acception large, se définit comme un amoncellement de matière qui donne une forme, qui peut être celle d'un terrain industriel, d'un monument commémoratif associé à la mémoire de défunts, et qui peut ne pas être un tombeau.
Laurent Verslip.
Et c'est un fait que, alors, par défaut de place, par souci de clarté dans le propos, j'avais initialement souhaité conclure cette exposition par deux clins d'œil. Le premier est celui à Waterloo, précisément. Waterloo, la réponse est aisée, ce n'est pas un tumulus à vocation funéraire, c'est-à-dire ce n'est pas un tumulus au sens réduit, strict du terme, qui est le propos de l'exposition, et qui est souvent le sens technique qu'on lui accorde. C'est un monument commémoratif d'une victoire, qui a été payé au prix fort et de milliers de pertes humaines. En cela, ça rejoint le souci des commémorations des grands tertres monumentaux néoclassiques qui sont aux États-Unis, érigés tant par les nordistes que les sudistes, les confédérés, pour rappeler la mémoire des grandes batailles de cette guerre civile. On a des tertres qui sont érigés en mémoire de défunts de la Première Guerre mondiale à Tournai, le monument aux Vendéens, à la Cambre en Normandie pour des défunts soldats défunts allemands de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ce sont des choses qui ne sont pas trop compliquées éventuellement à défendre. Ce n'est pas un tumulus, mais sa forme est tumulaire. Ça n'est pas un tombeau. C'est une commémoration. Mais j'avais voulu faire un deuxième clin d'œil. J'avais songé à un moment donné présenter en guise de conclusion le logotype de nouveau logotype de la, enfin, nouveau récent logotype de la ville de Charleroi, où on montre un terril. Un terril, c'est un crassier, comme on l'appelle, c'est une décharge, c'est détritique. Mais il procède du même phénomène d'amoncellement physiquement. C'est un tumulus, effectivement, physiquement. Mais avec le recul, m'étais-je dit, est-ce que ce tumulus aujourd'hui, qui était banni, qui est, oui, c'est une décharge, aujourd'hui, on s'en empare comme étant le symbole dans le paysage. On revient au paysage. Au niveau des identités, c'est un symbole en fait d'un passé ouvrier, d'un succès industriel incontestable, de la honte qu'il a pu inspirer à un moment donné. Il réveille une certaine fierté de collective en fait, d'attachement à un passé, je crois, et le soin qu'on lui prête. Le grand GR des terrils permet de les visiter tous sans en rater un depuis le nord de la France jusqu'à Liège. Certains sont classés Natura 2000. Ça n'est pas surprenant quand on sait que des grands tertres gallo-romains de nos régions, quand l'outil législatif ne le permettait pas encore, on les classait comme sites naturels, comme sites, pas comme monuments archéologiques. Et d'une certaine manière, ici, on a des terrils qui sont Natura 2000, des terrils qui sont des monuments aussi, au final, commémoratifs, et qui matérialise la mémoire collective de nos régions. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que c'est le tombeau des illusions passées, d'un passé révolu, mais d'une certaine manière, c'était un peu ce qui m'avait animé en choisissant ces deux clins d'œil conclusifs qu'on a écartés, finalement, de notre propos, parce que le souci est de rendre accessible cette exposition au plus grand public. Et à certains égards, ces réflexions nous emmenaient un peu loin du propos et risquaient de brouiller les pistes. Voilà, on n'est pas maître de tout. Le commissaire propose, et puis les scénographes, muséographes et ceux qui nous donnent la chance d'être accueillis ici, dans ce musée, disposent et ont donné une forme tout à fait compréhensible du message, des messages qu'on souhaitait faire passer.
Juste pour conclure, oui. Cette phrase de Tacite, que dit-elle ?
En Germanie, on voit que les personnages importants, les chefs, se font incinérer, on les consume sur des bûchers que l'on dresse. Parfois, on y brûle leur cheval aussi. Et Tacite, là, inversement à beaucoup de ces sépultures richissimes, souligne le fait qu'on ne les apprête pas de vêtements riches, on ne les accompagne pas de quantités de mobilier incommensurables, mais qu'ensuite, on les recouvre soigneusement de tertres engazonnés. Et certains manuscrits du XVIIe, qu'on a retrouvés aux Pays-Bas notamment, montrent dans ces histoires assez tardives du pays que l'on construit des tertres, effectivement, imaginés comme étant engazonnés.
Engazonnés comme les tombes protestantes.
Par exemple, et comme les tombes dont je parlais, les tombes militaires des Vendéens à Tournai et allemandes en Normandie. La végétation pousse naturellement, mais c'est un des challenges de la conservation et de la protection des tertres. Il y a une vidéo qui est présentée tout à fait dans la dernière section, où quand le visiteur quitte l'exposition, il voit des images vidéo, en fait, où on élague et on débroussaille des tertres dont la croissance de la végétation compromet, au final, la bonne tenue, on en oublie la forme. Donc il faut maintenir une certaine forme de végétation pour empêcher l'érosion de se manifester trop violemment, mais il faut pas non plus que ça en devienne des bosquets à ce point, ça pose des problèmes. Donc voilà, donc tout un entretien qui se fait, et là c'est plus qu'engazonné, beaucoup de tertres sont couronnés d'un, de cinq, de trois arbres, et ça marque vraiment l'imagination jusqu'à frapper les écus, les blasons de certaines municipalités en Allemagne, comme dans nos régions, à Cours-Saint-Étienne par exemple.
Emmanuel Druard, du service aux collections. Et j'ai monté la galerie des moulages.
Archéologie de voyage. Au musée universitaire de Louvain, au musée royal d'art et d'histoire au cinquantenaire.
Alors, galerie, pour nous, ça évoque plusieurs choses. Ça évoque le lieu qui est longitudinal, principalement longiligne, parce qu'on est sous la ruelle qui permet de connecter les deux bâtiments du musée L en surface. Aussi parce qu'il y a quelque chose qui rappelle le lien avec l'académie, puisque ces moulages ont été d'un grand secours pour l'enseignement dans les académies. Donc il y avait vraiment ce côté de galerie, galeria. Et alors, une troisième notion aussi qui est importante, c'est que
Au départ, on avait pensé à utiliser le terme gypsothèque, qui est clairement le terme à utiliser pour une collection des moulages comme celle-ci. Mais pour beaucoup de personnes, ça n'allait pas faire suffisamment sens. Et donc, on a voulu quand même être plus dans de quelque chose qui était attractif et qui nous convenait aussi très bien, le terme galerie.
Archéologie de voyage. Au musée universitaire de Louvain.
Les moulages, justement, ici, en lien avec les musées royaux d'art et d'histoire, il y a plusieurs liens intéressants. Il y a un lien d'abord de production, puisqu'il y a l'atelier des moulages au musée royaux d'art et d'histoire, qui est un atelier encore fort actif aujourd'hui, et qui est à l'origine de certains moulages que nous avons ici. Pour preuve, il y a 5-6 ans, on a dû recommander une partie d'un moulage trop abîmé, qui était une extrémité, une main, que nous avons recommandé à l'atelier des moulages de Bruxelles. Ça, c'est un des ateliers qui est à la source des moulages ici. Un autre, ce sont les ateliers de Berlin. Et un troisième, ce sont les ateliers d'Athènes. Donc, ce sont vraiment les trois foyers qui sont responsables de la production des moulages qui sont ici.
Avec Anne Kéringen, Isabelle Marron, Laurent Verslip, Emmanuel Druyard.
1864, pour être assez précis, avec un ouvrage que j'ai volontairement sorti de la bibliothèque de Edmond Reusens, chanoine Edmond Reusens, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Éléments d'archéologie chrétienne et qui est l'origine vraiment de cette collection, à savoir un cours, donc un enseignement, et la volonté d'acheter quelques moulages chrétiens pour nourrir cet enseignement.
Archéologie de voyage.
Cette collection des moulages est tout à fait une collection qui était unitaire. Au moment du partage entre les deux universités, ce partage au niveau des collections s'est fait de manière égale. Et aujourd'hui, la KU Leuven a présenté ces moulages dans un espace qu'ils rendent accessible les mercredis après-midi au public et où on voit vraiment l'autre moitié de la collection qui est ici. Et en écho à ça, nous avons voulu placer dans l'espace de vernissage ces grandes photos qui sont tirées donc sur bâche aujourd'hui, mais qui sont des plaques photographiques du fonds Fernand Mayence, qui sont des plaques des halles de Leuven où étaient présentées ces collections de moulages. Et sur ces bâches, il y aurait moyen de distinguer très clairement les moulages que nous avons ici de ceux qui sont à la KU Leuven.
Ici, nous sommes devant une momie qui dort depuis longtemps.
Dans nos collections permanentes, dans nos salles permanentes, mais à l'occasion de l'exposition, elle a reçu un traitement. Elle est restaurée aussi bien, et aussi bien ses textiles avec lesquels elle a été enterrée. Donc on se trouve ici devant une momie, 6e siècle, donc retrouvée en Égypte. Les conditions de conservation en Égypte sont bien évidemment tout à fait différentes que chez nous. Le climat sec fait que beaucoup de textiles sont conservés jusqu'à aujourd'hui, et d'ailleurs dans un état tout à fait extraordinaire. Les motifs qu'on voit sur les textiles avec lesquels elle a été enterrée, magnifiques aussi les couleurs. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de lumière ici. C'est pour la conservation de tous ces textiles et la momie même qu'on a dû adapter la luminosité.
Je vais me rendre au musée du cinquantenaire pour continuer cette émission sur la question du Moyen-Âge. Alors, vous avez de ces moulages ici présents.
Mais donc, pour revenir à la momie, c'est une momie naturelle, comme on dit. Donc, elle n'a pas été momifiée de la façon classique où on enlève tous les intestins. Elle est séchée, c'est très dur de parler de ça. Elle est aussi exposée dans un espace un peu séparé pour les personnes qui n'aiment pas voir ou être confrontées à cela, ne sont pas obligées du tout. Mais donc, en effet, elle est séchée à l'aide de sel aussi. D'ailleurs, on a retrouvé pendant la restauration, en effet, ce dépôt aussi sur son corps.
Pour le Moyen-Âge, énormément d'éléments architecturaux, que ce soit console, que ce soit clé de voûte, mais aussi une grande collection, comme ici, de plats de livres qui étaient originellement en ivoire et qui servait de couverture à des évangiles, avec un intérêt très marqué pour le détail de l'iconographie, parce que l'ivoire permettait donc un travail minutieux et le moulage permet de rendre avec exactitude, évidemment, les détails que l'on peut trouver tant sur ces boîtes reliquaires que sur ces plats de livres. Donc une très belle production et surtout une richesse au niveau de l'iconographie.
Et elle s'appelle Euphémia, notre momie, car l'archéologue Albert Gaillet, qui l'a retrouvée, apparemment avait vu sur un des textiles le nom Euphémia.
Archéologie, deux voyages, par Thierry Genicot.
Un autre ensemble aussi, ce sont les deux gisants qu'on a présentés, un gisant qui est l'évêque de Padoue.
Emmanuel Truard.
Comme un gisant, à l'horizontale, volontairement, et on l'assume, le fait qu'il ne soit pas dans un état parfait, parce qu'on veut attirer l'attention de collaborations futures en termes de restauration de cette collection de moulages. Et puis une autre gisante, qui est Marie de Bourgogne, et que nous avons présentée à la verticale, pour des raisons de place, mais aussi pour un clin d'œil à l'histoire de ce moulage, qui relie l'histoire du moulage avec une pratique tout à fait contemporaine, à savoir que ce moulage a servi pour un film réalisé selon la nouvelle de Thomas Owen dans le château de Senef. Et la gisante est présentée à ce moment-là couchée, mais avec des mains qu'on voit dans le film qui sont originellement pas dans ce sens-là. L'histoire fait que les mains auraient dérangé les propriétaires de l'œuvre qui conservait cette gisante comme ça, parce qu'ils butaient constamment sur ses mains, ils les ont fait redresser après. Mais donc voilà, un moulage qui a servi pour un film, qui est présenté à l'horizontale avec une histoire de l'œuvre elle-même, intéressant aussi au niveau Moyen-Âge.
On prend un 4e, 10e siècle. En introduction, l'exposition, on montrait des pièces issues de fouilles archéologiques à Bruchem, au nord d'Anvers. Et même si c'est un petit village en pays rural aussi à la période mérovingienne, on remarque dans les pièces qui ont été retrouvées dans les tombes de ce cimetière mérovingien des matières premières qui viennent d'Asie, Asie sud-est, de la céramique qui vient de l'Angleterre, des monnaies de Constantinople. Et donc même les habitants de ce petit village finalement avaient accès à des matières premières venant de très loin, et donc il y avait un commerce tout à fait existant. Parfois, on a comme ça l'impression que vers la fin de l'Antiquité, le commerce se termine.
Et quand vous dites 4e siècle, fin de l'Antiquité, il s'agit de fin de l'Empire romain?
Oui, tout à fait. Donc notre exposition couvre le Haut Moyen-Âge. Donc le Moyen-Âge, on le date 5e siècle, 15e siècle, mais nous on parle uniquement du Haut Moyen-Âge, donc, mais on commence un peu plus tôt, parce que même si la date de la fin de l'Antiquité, 476, est généralement pris comme départ pour le Moyen-Âge, le début de la fin commence finalement déjà à la fin du 3e siècle, voire 4e siècle, avec tous des peuples qui commencent à bouger, qui se trouvent aux frontières de l'Empire romain, et qui petit à petit commencent à rentrer dans l'Empire aussi. Donc on commence déjà au 4e siècle, mais alors en effet 476, c'est la date où les mercenaires germains, je pense que je peux le dire comme ça en français, déposent en fait le dernier empereur romain, Romulus Augustulus. Il était alors âgé de 15 ans, donc à mon avis son pouvoir n'était pas très, très large à ce moment-là. Et voilà, et donc à ce moment-là, on parle de la fin de l'Empire romain d'Occident. Mais il faut se dire qu'à ce moment-là, l'Empire romain d'Orient continue à exister, à avoir une très grande influence encore pendant la période mérovingienne. Donc dans nos régions, il y a alors les Francs qui commencent à s'installer, alors avec vraiment Clovis qui va réussir à réunir plusieurs royaumes.
Et l'exposition s'arrête à quelle époque ?
Donc au Xe siècle, on prend encore les Vikings, la période des Vikings, et donc en effet on s'arrête au Xe siècle.
Archéologie de voyage. Au Musée Royal d'Art et d'Histoire, cinquantenaire. Exposition Crossroads, avec Brit Glass. Les mouvements de population à travers le Moyen-Âge européen, jusqu'au 29 mars.
La période viking commence en fin 8e siècle. En 793, le monastère de Lindisfarne en Angleterre est attaqué par les vikings. Et c'est une des grandes premières attaques des vikings qui en fait annonce le début de cette période fort bouleversante pour nos régions. Même si, il faut quand même se dire que nous, on connaît aujourd'hui beaucoup de cette période, la via les sources chrétiennes de la période, et donc il faut peut-être se dire que parfois l'effet psychologique était un peu plus grand que finalement les faits réels et les pertes réelles que nous avons eues à cette période-là. Et à cette période-là, il y a en effet aussi le commerce avec le Nord qui commence à s'installer tout à fait. L'Europe du Nord, à partir de ce moment-là, va vraiment faire partie intégrante de l'Europe. Dans cette période-là que se situe notre exposition. Et donc c'est une exposition itinérante qui a déjà ouvert ses portes à Amsterdam, à Athènes et à Bonn. Mais nous, pour notre exposition ici, on a été puisés dans nos propres réserves, puisque bien évidemment le sujet rentre tout à fait dans les collections du musée. Et on a entre autres un point phare de notre exposition, c'est la momie, la brodeuse, qui était déjà exposée dans nos salles permanentes, mais qui à l'occasion a été tout à fait restaurée, tous ces textiles avec lesquels elle a été enterrée, mais aussi la momie même. Et donc elle prend une place importante dans nos collections, parce que comme j'ai déjà dit au début, donc on prend l'Europe, nord-ouest de l'Europe, mais on va aussi jusqu'en Orient, la Méditerranée orientale, avec l'Égypte aussi, qui prend une place importante.
Au Musée Royal d'Art et d'Histoire, cinquantenaire, exposition Crossroads, avec Brit Glass. Les mouvements de population à travers le Moyen-Âge européen, jusqu'au 29 mars. Archéologie, deux voyages, par Thierry Genicot. Le Monde Invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.